Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jérémy Hébert et préparée par Paul Lassène. Avec nous, Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF, directeur du CECOP, et que nous essayons d'avoir le plus souvent possible dans cette émission parce que c'est vraiment l'un des tout meilleurs politologues de France et de Navarre. Et David Doucan, journaliste politique, cette année vous avez retrouvé tous les matins au journal de 8h. Et pour vous deux, messieurs, nous commençons par Canteloup qui traite lui-même, mais à sa manière, le sujet de la semaine.
C'est donc une défaite historique pour la droite. Jamais le parti n'avait... C'est donc une défaite historique pour la droite. Jamais le parti n'avait fait 8% à une élection. On va en parler avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait gagné les européennes de 2009 alors qu'il était président. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Aïe, 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 aïe. C'est quoi, j'ai mal à ma droite. Hier encore, j'avais 20 ans. Je faisais 27% et là, Wauquiez, putain, Wauquiez. Wauquiez. Non mais Wauquiez, Wauquiez, merde, Wauquiez. Wauquiez.
Oui, bonjour. Bonjour Nicolas, tu m'as appelé?
Laurent, combien de fois que je t'ai dit que t'étais pas prêt? Tu sais, tu te souviens de ce qu'on disait toi au Puy-en-Velay quand t'étais petit? Tu t'en souviens?
Oui, je m'en souviens Nicolas. On disait, Madame Wauquiez, votre petit garçon, il est différent.
Oui, d'accord. Et ça voulait dire quoi ton avis différent? Ça voulait quoi dire différent?
Ça voulait quoi dire?
Ben, ça voulait dire que j'allais devenir un jour président de la République.
Mais espèce d'abrut de espèce de garçon différent. Ça veut dire que tu dois commencer par des choses plus simples que la politique. Pas comme jardinier, cantonnier. Hein, je sais pas, moi, je peux t'aider, je peux te trouver une place aux Hôtels Accor. Tu peux faire, je suis sûr que tu serais capable de faire les messages de répondeur des Hôtels Accor. Je pense que tu peux y arriver.
Tu crois, Nicolas?
Mais bien sûr. Tu sais, c'est moins dur que de gagner les européennes.
Bon, bah écoute. Je veux bien essayer.
Eh bien, vas-y, s'il y a du monde en régie, il y a encore du monde en régie Europe 1. Eh bien, envoyez une petite musique. Allez, je t'écoute.
Bonjour et bienvenue aux Hôtels d'Accor. Les Hôtels d'Accor vous accueillent tous les jours, ainsi que les nuits, dans des chambres pourvues de ligues nocturnes et dans un environnement calme et serein, garanti. Sans arabe, il n'y a pas d'arabe.
Putain, non mais ça va pas. C'est fou, mais allez, dégage. Il m'a saoulé, c'est fou, ça. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il parle comme Le Pen, mais toujours en plus pire.
Merci Nicolas Sarkozy.
Toujours en plus pire. C'était Nicolas Canteloup, mardi matin sur Europe 1. Alors, derrière cette plaisanterie, se pose une question sérieuse. Qui est ce qu'on appelle maintenant la crise chez les Républicains, la crise de la droite. Alors, première question, est-ce que vous considérez d'un point de vue de l'analyse politique, évidemment pas d'un point de vue des choix personnels, que Laurent Wauquiez devrait démissionner? Jérôme Jaffré.
Je dirais oui, et ce n'est pas l'essentiel. Donc, c'est ce qui permet à Laurent Wauquiez de gagner un peu de temps. Le choc vertigineux qu'a reçu la droite, qu'ont reçu les Républicains dimanche, je dirais il s'est fait en deux étapes finalement. D'abord, ils ne s'attendaient pas à ce score de 8%, hein, les calculs qu'ils avaient, que les sondages leur indiquaient, c'était 4 à 5 points de plus, et à ce moment-là, ils considéraient que le job était fait, qu'ils pouvaient dire on enclenche l'avenir, la droite est de retour, discours qui n'existe évidemment plus et qui a disparu. Mais l'autre choc, ça a été dans la soirée, la nuit, le lendemain matin, quand tous les leaders de la droite ont regardé les résultats dans leur commune. Parce que jusque-là, bon, une branlée aux européennes, c'est pas le premier parti qui l'a subi. Mais le fait que vous ayez dans les communes de la droite, la liste Bellamy fasse 10-11%, pas plus. Et la liste Macron fait des 45-48%, etc. Pour tous les leaders de la droite, c'est un bouleversement complet. Et donc, tous les calculs politiques pour la suite des opérations changent. c'est plus qu'un problème de parti. La droite possède, avec les Républicains, elle est le premier parti local en France. Elle a gagné les municipales en 2014, les départementales en 2015, les régionales fin 2015. Elle possède le pouvoir local. Les trois prochaines élections en France, ce sont les trois élections locales. Donc pour tous ces élus, vent de panique, comment s'en sortir, comment gérer? Alors du coup, la question Wauquiez devient presque une question accessoire par rapport à ça. C'est comment s'en sortir pour garder ses fiefs, pour continuer d'exister politiquement?
Alors c'est une question peut-être accessoire pour les municipales, mais ce n'est pas une question accessoire pour la présidentielle. Donc je vous la repose, David Doucan, du point de vue de l'analyse politique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner?
Je pense qu'il ne démissionnera pas, surtout. Si vous voulez, oui, on peut considérer qu'il y aurait une logique à démissionner. Beaucoup de responsables politiques de droite l'ont dit ces derniers jours.
Ah oui, d'ailleurs, écoutez, Bruno Retailleau.
Nous avons eu un échec qui est un échec cuisant, même on peut parler de naufrage. Et moi, j'estime, comme responsable public, que j'avais le devoir de mettre toutes les questions sur la table et de poser au président des Républicains directement cette question. On ne peut pas réduire le score et même l'échec et la défaite de dimanche à un seul homme. Ça serait aussi très injuste. Donc je ne veux pas tomber non plus dans cette caricature. À échec exceptionnel, mesure exceptionnelle. Parce que sinon, nous disparaîtrons.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat sur Europe 1 mardi.
Oui, Bruno Retailleau David qui, Descamps. Au lendemain de l'élection, a téléphoné à Laurent Wauquiez. Et lui a dit, Laurent, ta relation avec le pays est dégradée. Comptes-tu démissionner? Et Laurent Wauquiez lui a répondu, il n'en est pas question. Ça, c'est la situation telle qu'elle est dans la réalité. Ce sont les faits. Il n'y a aucun moyen d'ordre légal pour pousser Laurent Wauquiez à la démission. Il est élu pour 3 ans. Le Congrès, c'était en 2017. Ça dure jusqu'en 2020. Il est président des Républicains, élu à 80% par les militants. Donc maintenant, il y a des opérations politiques qui sont menées, l'initiative de Gérard Larcher. L'initiative de Gérard Larcher, elle est intéressante. Que dit le président du Sénat? Il dit il faut qu'on rassemble la droite et le centre en dehors des Républicains. Ça existe déjà, ça s'appelle En Marche. Donc, Laurent Wauquiez, moi, j'ai pas envie de l'accabler comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fait quoi en 2017, Laurent Wauquiez? Quel était son choix? Quelle ligne pouvait-il adopter? Sinon celle qui a été celle qu'il a choisie, c'est-à-dire une ligne dure, d'une droite presque identitaire, d'une droite limite sur les questions européennes, d'une droite très dure sur l'immigration. On a pu dire, ça ressemble au discours du Rassemblement National. Mais il allait faire quoi, Laurent Wauquiez? Il incarne la droite, il est élu président des Républicains, et il y a un président de la République qui réforme l'ISF, qui change le droit du travail, qui fait tout ce que la droite réclame depuis 30, 20, 25, 30 ans. Qu'allait-il faire? S'il allait dire, oui, alors nous sommes une droite responsable, modérée, nous sommes l'UMP, l'UDF est parmi nous.
Il a choisi d'incarner une seule droite, alors que pour l'instant, pour gagner à la présidentielle, ses prédécesseurs incarnaient les trois droites, oui. La conservatrice, la libérale et la sociale. Jérôme Jaffré.
Ben, vous venez de voler ce que je comptais dire, cher Olivier Duhamel, qu'effectivement, le repli sur un seul segment de la droite, une seule des trois droites, les trois droites de René Raymond, la conservatrice, la libérale et la droite d'autorité, la droite dite bonapartiste, suppose un chef et une capacité d'unifier les droites. Et là, on a ce mécanisme qui est en fait la grande nouvelle politique et électorale, c'est le fait que Emmanuel Macron, et avec la liste En Marche, a changé son électorat. Voilà. Ce qui est quelque chose que le seul précédent que je vois, il remonte à 1945, c'est vous dire qu'il n'est pas d'hier. C'est quand les socialistes ont pris la place, ont récupéré l'électorat radical et que le Parti communiste a récupéré l'électorat SFIO du Front populaire de 1936. Entre-temps, il s'était passé 9 ans et la guerre, excusez du peu. Là, nous avons une situation où Macron a été élu au premier tour, enfin, a gagné au premier tour de la présidentielle avec des voix de gauche, massivement. Et quand on regarde la composition de l'électorat de la liste Loiseau, c'est en majorité des électeurs qui se situent à droite sur l'échiquier politique. Donc, il a changé d'électorat. C'est une sorte de baguette magique qu'il a eue, et profitant du morcellement de la gauche, de son émiettement, de son incapacité d'unité, et du coup, eh bien, la droite classique, la droite partisane, car il faut distinguer, hein, du coup, la droite se porte très bien si on considère que c'est Macron son vrai leader.
Ben voilà.
La droite partisane, elle a été prise en étau entre Macron et le Rassemblement National.
Oui, parce que les poussées populistes ont absolument tout perturbé dans le jeu politique classique, c'est ce que l'on voit dans quelques instants.
Comme chaque samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel jusqu'à 11h avec Mediapolis. Et ce matin, vous êtes entouré de Jérôme Jaffré, chercheur associé au CVPOF et directeur du CECOP, et David Doucan, journaliste politique à Europe 1.
Et comme chaque samedi, Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, a scruté pour nous les médias internationaux, notamment sur la poussée populiste. Et elle a opéré un article qui prend les choses sous un angle un peu original du journaliste du Financial Times, Tim Harford. « Compromise dies in the age of outrage ». Le compromis meurt à l'heure des insultes. Donc le durcissement des positions politiques est, dit-il, la sclérose qui peut provoquer une crise cardiaque pour les démocraties. Nous ne savons plus faire des compromis et c'est ce qui nuit à notre système. Et cela s'explique par les personnalités des hommes politiques. Pour un homme ayant signé un livre intitulé « The Art of the Deal », l'art du compromis, Donald Trump s'avère complètement indifférent à la négociation d'accords durables avec qui que ce soit. Peut-être que les problèmes eux-mêmes sont plus complexes, plus difficiles, mais ils ne peuvent pas faire l'objet de compromis. Le Brexit en est un exemple. C'est impossible de satisfaire à la fois ceux qui veulent rester et ceux qui veulent quitter l'Union européenne. Mais quoi qu'il en soit, la politique est devenue un sport de compétition violent, beaucoup moins ouverte à la recherche de solutions. Donc une élection démocratique est plus proche d'une compétition que d'une négociation fondée sur des principes. Cette poussée populiste, elle a été significative, relativement contenue. Est-ce qu'elle va bousculer tellement le jeu au Parlement européen que la gouvernance de l'Europe en deviendra plus difficile? Écoutez Vincent Herouet, lundi matin sur Europe 1.
L'autre événement sans précédent, c'est que les deux grands partis de la droite et de la gauche, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, n'ont plus à eux deux la majorité absolue. Le PPE, auquel appartiennent les présidents actuels de la Commission, du Parlement, du Conseil, va devoir faire une cure d'humilité. Et de son côté, le PSE subit une déroute. Le calvaire de la social-démocratie européenne continue. Quatre forces vont s'articuler pour tenir les souverainistes en quarantaine et pour composer des majorités. Alors, la vie de couple, PSE-PPE, c'était déjà compliqué. À quatre, on passe du boudoir au boulevard. Les rires peuvent se figer, mais la machine se paralyser.
Alors, c'est tenu un Conseil européen, mardi soir, et je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais Emmanuel Macron, qu'on disait totalement isolé en Europe, a commencé à construire une sorte d'alliance implicite avec deux premiers ministres de pays dans lesquels les sociaux-démocrates ont fait des très beaux résultats aux européennes, à savoir l'Espagne et le Portugal, donc messieurs Gomez et Sanchez, Costa et Sanchez, et quelques autres, pour contrer Angela Merkel. On a une situation absolument nouvelle dans laquelle, premièrement, l'Allemagne n'est plus dans la situation de domination dans laquelle elle était à cause de la faiblesse des deux grands partis allemands et de la grande coalition aux élections européennes. Ou deuxièmement, ça n'est plus le couple franco-allemand qui prédécide et entraîne les autres, et où on est dans une relation conflictuelle pour construire le compromis, notamment entre Merkel et Macron. On parle très peu de ça d'abord, Jérôme Jaffray, n'est-ce pas ? On a fait des élections européennes, elles ont des conséquences européennes très importantes. Herouet l'a souligné, il n'y a plus la majorité automatique de la grande coalition sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates, conservateurs. À tel point que le choix des nouveaux dirigeants et au premier lieu du président de la Commission prend une importance tout à fait nouvelle et ce sujet est quasiment négligé. Comment est-ce que vous expliquez ça, Jérôme Jaffray ?
Ah, c'est effectivement l'un des charmes de la politique française et du suivi de la politique française.
Ah, vous appelez ça un charme, vous ?
Il y a un charme entre guillemets quand même. Il y a effectivement un intérêt de 8 jours tous les 5 ans pour la politique en Europe. Là, un petit peu cette semaine, on en a parlé, mais on va en parler de moins en moins.
Moins que de Wauquiez.
Voilà, Wauquiez est devenu l'élément dominant de la semaine par rapport à ses affaires européennes. L'une de nos difficultés françaises, c'est que ce qui se passe dans le fonctionnement politique de l'Europe, c'est radicalement différent du fonctionnement de la Ve République et des institutions de la Ve République. Donc il y a une difficulté de gérer quelque chose de radicalement différent dans son mode de fonctionnement. Mais du coup, ce qui est assez fascinant chez Emmanuel Macron, qui n'a pas fini de nous étonner, c'est qu'il fait au niveau de l'Europe l'inverse de ce qu'il pratique en France. Excusez-moi de le dire. Oui. L'inverse d'abord parce que en France, il joue à fond de la toute-puissance que lui donnent les institutions de la Ve République et du président qui peut décider de tout. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout en Europe. Et en Europe, il cherche à bâtir une coalition des progressistes, excusez du peu, alors qu'en France, il a pris le terrain de la droite.
Bah, ça prouve qu'il n'est pas si sauf que ça. Il s'adapte à chaque situation.
Ça, d'adaptation. C'est le moins qu'on puisse dire. Capacité d'adaptation est absolument sans limite, mais au risque un peu quand même de la contradiction et de la difficulté. L'une des choses très intéressantes, c'est qu'effectivement, il casse largement la relation franco-allemande. Alors que notre discours français a fonctionné depuis le traité de 1963 de Gaulle-Adenauer, ça fait un bail, sur le couple franco-allemand. Et c'est plus du tout ça, effectivement. Il faut empêcher l'Allemagne d'imposer ses personnalités dans le mode de fonctionnement et de direction de l'Europe. C'est ça la vraie bataille, elle est effectivement passionnante.
Il casse, peut-être qu'on pourrait dire qu'il bouscule. Alors David Doucan, j'ai une question plus difficile pour vous, puisque vous faites le journal une question médiapolitique, puisque oui. Vous faites le journal d'Europe 1 tous les matins à 8h, pourquoi vous nous avez parlé trois fois plus de Wauquiez que de ce qui se passe d'important pour diriger l'Europe demain? Mais comme la question est difficile, je vous laisse quelques instants avant de me répondre.
De 10h à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit ce samedi David Doucan, journaliste politique à Europe 1, et Jérôme Jaffray, chercheur associé au CEVIPOF et directeur du CECOP.
Alors chers amis, je résume. Il se passe une chose très importante en Europe, c'est qu'on doit choisir le prochain chef du gouvernement européen, entre guillemets. Le prochain président de la Commission. Et Mme Merkel voudrait que ce soit quelqu'un de son parti et d'ailleurs de son pays, M. Manfred Weber, mais Emmanuel Macron ne veut pas. Et donc pour la première fois, il y a une sorte de confrontation franco-allemande. Emmanuel Macron préférerait que ce soit éventuellement Michel Barnier, ou alors que ce soit la libérale...
Vestager, voilà.
Margrethe Vestager, libérale danoise. Ouais. Mais très prudemment, il n'a pas donné de nom, mais il a mis des critères qui excluent tous
Manfred.
C'est un vrai sujet, c'est très important. Imaginez, on sera en train de réfléchir à qui va être le prochain président français désigné dans les semaines qui viennent, ou le prochain Premier ministre britannique. D'ailleurs, c'est le cas, britannique. Bon, en français, on en parlerait à mort. Britannique, si on était en Angleterre, on parlerait que de ça. Et vous, David Doucan, qui faites le journal de 8h tous les matins sur Europe, vous nous avez bassiné avec Wauquiez. Wauquiez reste pas. Où ça? À la tête de l'Europe? Pas du tout. À la tête d'un petit parti qui s'appelle Les Républicains et qui a fait 8,5%. Et vous nous avez presque pas parlé de ça, pourquoi? Bon.
Alors on reprendra les archives, on comptabilisera,
d'accord.
Votre attaque est totalement injustifiée, puisque,
et ignoble.
Puisque notre amie Isabelle Horry, qui est la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, est intervenue tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1, parce que nous sommes au contraire au fait de l'importance et de l'impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens, des choix qui vont être faits dans les semaines qui viennent à Bruxelles. Mais vous avez raison, de manière plus générale.
Ah! Je pense que je parle plus général.
Non, vous avez tort sur la semaine qui suit les élections européennes. D'accord. Vous avez raison sur l'ensemble de l'année médiatique.
Donc je mets un bémol à ce que j'ai dit sur je surligne sur le reste.
Vous pouvez, parce que là, c'est vrai que nous avons une sorte de cas de conscience. Il faut que nous nous observions aussi un tout petit peu. Et nous avons tort que de céder à ce qui est une maladie française, c'est-à-dire que nous sommes obsédés par l'élection présidentielle, et en réalité, on parle de l'élection présidentielle à chacune des élections. Même quand on fait la campagne des européennes, on parle de la présidentielle. Quand les Français votent pour les européennes, les conséquences qui suivent, en réalité, ce sont des commentaires et des analyses qui concernent la présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Wauquiez? Parce qu'on pense que Laurent Wauquiez veut être candidat à la présidentielle en 2022 et que ce qui s'est passé dimanche est un coup d'arrêt pour lui, peut-être. Et ça, nous avons tort là-dessus, bien sûr. C'est la grande déprime de tous les correspondants français à Bruxelles. Nos confrères et consoeurs journalistes sont consternés par cet égocentrisme, finalement,
plus,
de la vie politique française.
Plus l'idée qui s'est installée, mais qui est quand même pour part mythique, qu'on ne peut pas parler d'Europe sans que ça emmerde tout le monde.
Oui,
et
alors,
ça, c'est pas vrai.
Ça a été démenti, je trouve, pendant cette campagne des élections européennes. Il y a eu de nombreux débats télévisés qui ont obtenu des audiences correctes, franchement, pour des sujets très techniques, et les candidats ou les responsables de partis politiques, lors de ces multiples débats télévisés, et Europe 1 était partenaire de plusieurs d'entre eux avec CNews.
Vous savez, j'ai une preuve que...
Attends, je finis juste ma phrase. Les candidats, les patrons de partis ont parlé d'Europe.
Oui,
ont
mais parlé j'ai d'Europe. Une preuve que l'Europe intéresse. J'ai une preuve absolue. Il y a eu une participation plus importante aux élections européennes qu'aux élections législatives de juin 2017. C'est-à-dire, évidemment, parce qu'elles étaient dans la foulée de la présidentielle, d'accord, on peut mettre toutes les explications qu'on veut. C'est la première fois dans l'histoire qu'on est plus allé voter aux élections législatives européennes qu'aux élections législatives françaises. Voilà. Jérôme Jaffré, ça veut quand même dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose. En tout cas, ce qui est très intéressant, parce que là aussi, nous avons d'abord raisonné sur la France le soir du scrutin, c'est que c'est un mouvement qu'on a observé dans la plupart des pays européens. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les pays de l'Est, qui jusque-là délaissaient complètement la participation aux élections européennes, on avait des scores quasi ridicules, 20-25% de participation.
17% en Slovaquie.
Oui, on est monté vers 40-45% de participation, y compris dans les pays de l'Est. Tout simplement aussi parce qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus des enjeux européens.
Et que c'est perçu par les électeurs.
Oui, l'action sur le climat, évidemment, le problème des migrations, les guerres commerciales, comment s'organiser l'Europe dans les guerres commerciales qui ont lieu, tout ça compte énormément. Alors, un mot quand même sur le compromis franco-allemand dont il faudra bien trouver un compromis franco-allemand à l'arrivée et dont la conclusion sera d'écarter comme président de la Commission l'allemand et le français. Voilà le bilan.
Bon, ben d'accord.
On dit souvent à Bruxelles que tous les noms qui apparaissent dans la presse lorsqu'il s'agit de nommer, désigner plutôt, le président de la Commission européenne, si votre nom apparaît dans la presse, vous avez peu de chances d'être au final celui qui sera choisi.
Oui, mais c'est pourtant, Margrethe Vestager apparaît et moi je ne l'exclurai pas qu'elle soit choisie. Mais nous verrons bien.
C'est vraisemblable.
Pendant ce temps-là, il y a eu quand même, dans ces élections, une énorme, très importante erreur des sondeurs. Erreur des sondeurs qui, du coup, a d'ailleurs, pour ne pas contaminer les commentateurs, et comme j'ai la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Jérôme Jaffré, qui a très longtemps été sondeur et qui est un extraordinaire spécialiste des sondages, et David Doucan, qui est depuis des années et des années journaliste politique, qui sait ce que c'est qu'un commentaire politique, et que je vais taper sur les deux, eh bien, c'est dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos invités, David Doucan, journaliste politique à Europe 1, et Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF et directeur du CECOP.
Alors, une des très très bonnes nouvelles, je trouve, du 26 mai au soir, c'est l'échec des sondeurs, et du coup, dans une mesure non négligeable, des commentateurs. Parce que tout d'un coup, c'est la souveraineté de l'électeur. C'est pas parce qu'on nous dit que le score, ce sera ça, ça et ça, que ce ne serait pas la peine d'aller voter puisque tout est joué, mais pas du tout, rien n'est joué. Alors comment est-ce que les sondeurs ont pu à ce point se planter sur la participation, Jérôme Jaffré, à ce point se planter sur le score de la France insoumise, Jérôme Jaffré, à ce point se planter sur le score des Républicains? On disait off pendant la coupure de petites choses colorées, là, vous disiez off l'un et l'autre, on se plantait moins quand c'était nous qui étions en responsabilité. Mais vous avez peut-être une autre explication au moins complémentaire et plus modeste, Jérôme Jaffré.
Oui, c'est nécessaire. Non, il y a un loupé incontestable, mais un loupé assez curieux, je dirais. C'est-à-dire que le fait que le Rassemblement national soit en tête, qu'il n'ait qu'un point d'avance sur la liste En Marche de Nathalie Loiseau, leurs scores sont parfaitement évalués par les sondages. C'est-à-dire que nous avons, en revanche, nous avons effectivement un effondrement des Républicains qui n'était pas annoncé et une percée écologiste qui n'était pas annoncée. On disait jusque-là ELV, France Insoumise.
Ah oui, j'avais oublié dans la liste des erreurs.
Bord à bord, ELV, France Insoumise. Ce qui veut dire qu'il y a des mouvements extraordinairement complexes qui se sont produits, puisqu'une partie des Républicains est allée sur En Marche, une petite partie sur le Rassemblement National, la gauche s'est en partie déplacée vers les écologistes, mais tout ça aboutit à la stabilité sur l'information essentielle, qui est en tête et avec quel score, avec quel écart, est-ce que c'est le Rassemblement National, est-ce que c'est En Marche, puisque Macron en avait fait le match principal. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'à la fois les sondeurs et les commentateurs se sont totalement et uniquement focalisés sur les deux premiers.
Et
sur
les électeurs vous ont envoyé promener en s'intéressant à autre chose aussi.
Et ils ont eu raison de ce point de vue, mais je pense du coup, si vous voulez, que les sondeurs ont un peu oublié de regarder les mouvements possibles dans les autres électorats, tellement eux-mêmes étaient focalisés sur le match des deux premiers. J'ajoute enfin, vous me direz, est-ce que tout cela va porter gravement atteinte au sondage? Je vous rassure, pas du tout. Pas du tout. On le voit déjà cette semaine où les premiers sondages qui paraissent pour la percée de Jadot, par exemple, en popularité, etc., ça retient l'attention. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de boussole politique. Parce qu'avec la décomposition du paysage politique, les commentateurs, les observateurs ont besoin des sondages pour suivre la vie politique. Et vous remarquerez qu'hormis vous, haineux comme souvent, personne pratiquement ne fait le procès des sondages cette semaine.
Non, je ne suis pas haineux. je fais le travail que j'estime nécessaire dans notre démocratie de critique. Ça n'a rien à voir. Et si vous appelez toute critique une haine, Jérôme Jaffré, vous êtes mûr pour la Corée du Nord.
Vous êtes une sorte de Mélenchon au petit pied.
Oui, bah vous êtes bon pour aller en Turquie. Alors, David Doucan, est-ce que par ailleurs, il y a deux choses dommages. Il y a eu 7 ou 8 instituts de sondage. Ils ont tous commis la même erreur. Oui. Ça, c'est quand même dommage. Oui. Ça veut dire qu'ils travaillent de façon moutonnière. Alors. Mais la deuxième chose qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de journalistes politiques qui disent, pour dire attention, attention à ne pas surestimer Bellamy parce qu'il y a un phénomène de mode et parce que l'élection ne se fait pas dans les meetings. Attention à ce que si les jeunes vont voter, il peut y avoir un mouvement vers les écologistes, étant donné qu'il y a une mobilisation sur le climat qui n'existait pas autrefois. Pourquoi est-ce que les journalistes politiques, moi aussi je me mets dans l'eau, monsieur Jaffré, pour vous faire plaisir. Pourquoi
est-ce moment que de lucidité.
Les journalistes et les commentateurs, nous sommes à ce point contaminés par les sondages, ce qui fait que nous ne pouvons pas voir quand il se passe autre chose.
D'abord, je pense que les sondages, dans une société médiatique du quotidien et voire de même de l'heure par heure, une société médiatique des réseaux sociaux, une société médiatique des chaînes d'information en continu, vous officiez aussi régulièrement, sont devenus un outil d'addiction. Donc, pour les commentateurs, c'est devenu addictif. Donnez-moi vite un nouveau sondage. On était pendant cette campagne des européennes avec des baromètres quotidiens. De tous les instituts, quasiment.
J'ai dit ici même à Frédéric Dabi, que par ailleurs j'estime beaucoup, que je trouvais que ces Rolling plus 0,5, moins 0,5, plus 0,5, moins 0,5 n'avaient aucun sens.
Les Rolling, quand on dit les Rolling, sont des sondages quotidiens, tous les soirs, une nouvelle fournée. Donc il y a une addiction.
Ah oui,
les addictions, il faut savoir s'en départir. Ouais. C'est pas facile, mais il faut travailler là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux juste une grille d'analyse, parce que Jérôme Jaffré disait personne ne fait la critique des sondeurs, et on va continuer comme ça. Personne ne fait la critique des sondeurs, sauf parfois les sondeurs eux-mêmes, lorsque vous échangez avec eux en off, ce qui a été mon cas. Alors, vous le savez, lorsqu'une enquête d'opinion, un sondage est publié, elle est tempérée. Vous le savez ça. Ce ne sont pas les réponses brutes des concitoyens. Elles sont redressées. Donc, on prend en compte le sondeur de manière scientifique, tient compte des derniers résultats des dernières élections, opère des petites modifications, ce qui a donné l'occasion à la France Insoumise de hurler pendant des semaines en disant « Mais comment nous ne sommes pas du tout à 9 ou à 10. Les sondeurs nous modifient nos résultats. Ils nous mentent. » Je pense que les sondeurs ont effectivement modifié les résultats de la France Insoumise, mais en tenant compte du score de Jean-Luc Mélenchon, avril 2017, 19,58% de tête, et en fait l'ont surévalué, le score de la France Insoumise. Donc ça, c'est une erreur. Même chose pour les Républicains. Vous avez un François-Xavier Bellamy qui, médiatiquement, fait la une des journaux, présente bien dans les meetings ou sur les plateaux de télévision, et un score de François Fillon incroyable, criblé de balles, François Fillon, et d'affaires, qui fait quand même 20% à l'élection présidentielle, François Fillon.
Ouais, ça, ils en tiennent compte. Vous avez tellement dans les détails que je perds le fil. C'est quoi, du coup, l'explication? Qu'on redresse
le redressement
de la présidentielle.
Bien sûr. C'est que. Attendez, je finis juste.
Pas de tunnel,
Olivier, promis. Avec une conclusion très brève, c'est que pourquoi est-ce qu'on tient compte? Pourquoi est-ce qu'il y a ces erreurs? Parce que, a-t-on compris que le monde politique avait basculé? Il y a eu un séisme en 2017, on fait comme si on l'avait oublié. Eh bien, les élections européennes en ont été une réplique.
Alors, est-ce que Jaffré est d'accord? Il va nous le dire. Et puis, on passe aux erreurs par les partis et leurs responsables. Particulièrement, cette fois-ci, on va aller à gauche, puisqu'on a parlé de la droite, avec l'erreur du PS et l'erreur de Mélenchon. Dans quelques instants.
Jérôme Jaffré, chercheur associé au CIUPOF et directeur du CECOP, et David Doucan, journaliste politique et à Europe 1, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et donc, nous cherchons à comprendre, après les élections européennes de dimanche dernier, après avoir vu quelles étaient les erreurs des sondeurs et, du coup, dans la foulée des commentateurs, nous essayons de réfléchir, après avoir parlé de la crise de la droite et des erreurs de la ligne Wauquiez, cherchons maintenant les erreurs côté socialiste et Mélenchon. Mais juste avant, Jérôme Jaffré veut répondre à David Doucan sur l'explication des erreurs.
Juste pas répondre, partager en grande partie l'avis de David Doucan. Pour être fiable, les redressements des sondages ont besoin d'un paysage politique stable et installé.
Donc ça ne sert plus à rien de faire des sondages préélectoraux.
C'est excessif, comme souvent.
Donc il faut se méfier énormément
des sondages
préélectoraux.
Mais prenons par exemple les écologistes absents de la présidentielle, inexistants aux législatives. Du coup, vous manquez de base.
Ah, si on redresse par rapport à zéro, évidemment, ça ne le fait pas.
Par rapport à ce point. Et donc, alors, j'ai coutume de dire, si vous voulez, que les sondages peuvent être parfois un outil de prévision, et ce n'est pas leur but.
Du passé
imparfait, mais reste un outil d'analyse exceptionnel quand on veut comprendre. Voilà, prenons l'exemple Macron. Tous les commentateurs politiques, parce qu'ils vivent dans le système politique, ils le comprennent, ils l'analysent, ont considéré que c'était un grand succès politique pour Macron, le résultat des européennes, parce que les partis traditionnels affaiblis, enfoncés comme ils sont, c'est une situation vers un deuxième tour éventuel avec le Rassemblement national pour la suite, qui continue de favoriser Emmanuel Macron.
Un second tour, oui.
Et quand je regarde en revanche la façon dont les électeurs qui, eux, sont beaucoup plus directs dans leurs réponses, comment ils interprètent le résultat des européennes, c'est une défaite pour Macron. Qui a gagné? Qui a perdu? Macron a perdu. Pourquoi? Il nous avait dit le but c'est d'être premier, c'est d'arriver devant le Rassemblement national. L'électeur considère c'est le Rassemblement national, donc Macron a perdu. Donc les commentateurs nous disent Macron a gagné politiquement et les électeurs nous disent mais pas du tout, monsieur Macron a perdu.
Et les deux sont vrais parce que le 26 mai au soir l'analyse. Macron a perdu et parce que pour le lendemain Macron a gagné.
Et donc passionnant pour l'analyse politique que vous faites si brillamment, cher Olivier Duhamel.
Petit moment d'absence sur Jaffré, de la part de Jaffré qui me fait un compliment. Je suis d'accord avec vous que le plus intéressant dans les sondages, c'est l'analyse. Le problème, c'est qu'on les utilise à 90% sur ceux sur lesquels ils sont le plus contaminants et le moins intéressants, à savoir l'intention de vote, et à seulement à 10% sur l'analyse. C'est bien ça la difficulté.
Eh bien, nous essayons de faire l'inverse. 90% pour l'analyse, 10% pour la prévision.
C'est pour ça qu'on vous a invité. Alors, l'analyse de l'erreur du Parti Socialiste d'abord. Écoutez Raphaël Glucksmann.
Nous, on n'a jamais pensé qu'on serait en dessous de 5. Content de quoi? De cette gauche morcelée? Mais ça, on le savait depuis le début, de toute façon. Ça veut dire juste que les appareils politiques de la gauche sont adolescents et qu'ils ont préféré se compter au lieu de prendre la mesure de la gravité du moment. Et voilà, c'est tout. C'est pathétique, en fait.
Et ça, au moins, c'était vendredi 24 mai dans un reportage sur C'est à vous. Ça, au moins, on peut dire que c'est honnête dans l'analyse. À part adolescence, je mettrais plutôt sénescence. Mais pour vous, David Doucan, est-ce que c'est un moment à passer et est-ce qu'il y a une possibilité de rebond dans l'espace politique que Emmanuel Macron laisse sur sa gauche, ou est-ce que dans la situation de rétrécissement partisan, d'absence de leader unificateur, on est parti pour une gauche émiettée pendant des années et des années, si tant est qu'on puisse répondre à cette question.
Je ne veux pas tomber dans le piège que vous me tendez, puisque vous me demandez de faire de la prévision après avoir expliqué que nous étions nuls en prévision. Mais la question est intéressante.
Pas dit nul en prévision, j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre les sondages au pied de la lettre comme des prévisions.
Mais là, c'est intéressant ce qui se passe à gauche. Vous avez entièrement raison. C'est très intéressant. Il faut regarder par rapport à 2009. En 2009, vous avez Cohn-Bendit et les Verts qui font 16, hein, de mémoire, un peu plus de 16. Et Eva Joly, en 2012, elle fait 2,3. Là, il y a une vraie différence. La vraie différence, c'est qu'au terme des élections du 26 mai 2019, les Verts finissent en tête de la gauche. C'est une situation inédite. Nous n'avions jamais eu les Verts dans une position, en tout cas électorale, de leader de la gauche. Et donc là, il va falloir regarder avec précision les faits et gestes de Yannick Jadot. Qu'est-ce qu'il va faire et quel message va-t-il envoyer? A-t-il envie d'endosser le fardeau de l'unificateur de la gauche? Apparemment pas.
Il a envie d'endosser les délices d'un possible candidat à la présidentielle.
Exactement.
C'est pour ça qu'il pose en match avec sa compagne.
Absolument.
C'est la média politique par excellence.
Ça fait partie des codes.
Et c'est la preuve, ça vaut un sondage.
Ça vaut aux déclarations de candidature.
Absolument. Jérôme Jaffré.
Oui, sur les écologistes, c'est David Doucan a raison. Ce qui est très intéressant, c'est la différenciation qui se fait. La force électorale des écologistes, la puissance électorale qu'ils ont obtenue dans ce scrutin, c'est en partie sur le positionnement ni gauche ni droite, qui était celui de Macron en 2017, et que Jadot a poussé et a maintenu face à tous ceux qui lui disaient de s'affirmer clairement de gauche. Il a dit non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, l'écologie, c'est le climat. Et il a même déclaré qu'il acceptait l'économie de marché, la libre entreprise, etc. Ce qui n'est pas le discours traditionnel des Verts, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la puissance électorale, elle est là. Mais pour construire une force politique, il faudrait qu'il s'adosse à la gauche. Il ne peut le faire qu'en s'imposant comme un leader de gauche. Mais à ce moment-là, il met en péril la force électorale qu'il a construite en refusant les notions de gauche et de droite. Donc c'est cette tension qu'il faut analyser plus que les photos de M. Jadot avec sa compagne, certes c'est passionnant, mais c'est un peu trop média politique à mon avis.
Donc il est coincé, si je comprends bien.
En tout cas, il a ce problème de construction politique qui est très délicat à résoudre, très difficile.
Oui, très difficile, c'est dommage, même quasiment c'est impossible.
C'est dommage parce que le seul espace politique que Macron laisse libre, c'est celui de la gauche.
Eh bien, on va y revenir dans un instant avec le dernier groupe à traiter de ce point de vue-là, à savoir l'échec de Mélenchon. Après, une dernière petite distraction de réclame vu le succès de l'émission.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et ce samedi, Olivier, on retrouve à vos côtés Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF et directeur du CECOP, et David Doucan, journaliste politique à Europe 1.
Alors, dans le peu de minutes qui nous reste, l'effondrement, parce qu'on peut parler d'effondrement de la France insoumise, et pas seulement par rapport au sondage, mais par rapport à la présidentielle, même si ce serait évidemment à tempérer sérieusement si on comparait avec les européennes. On a entendu au sein de France Insoumise deux explications radicalement opposées. D'un côté, Clémentine Autain, qui dit, c'est l'erreur, je résume mais je vais au cœur de ce qu'elle dit, c'est l'erreur de la ligne populiste alors qu'il faut une ligne d'unification à gauche. Et à l'inverse, des responsables en France Insoumise, c'est l'erreur d'avoir trop à laisser tomber la ligne populiste. Jérôme Jaffré, lequel des deux ?
Les deux, forcément. C'est-à-dire quand vous rentrez...
Bah les deux, c'est quand même
vous,
l'un
quand
ou
l'autre. Quand vous rentrez dans une situation où les électeurs ne comprennent plus quelle est votre ligne, parce qu'ils pensent que vous en aviez une, que vous la gardez en partie, mais que vous la corrigez en partie, car c'est ça qui s'est passé dans cette affaire mélenchoniste. Cela dit, il y a aussi ce qui... Pour l'émission Média Politique, je voudrais quand même insister sur le poids des images, le poids des mots, qui est au cœur de la construction de votre émission. Ça compte énormément. C'est-à-dire que les images de la perquisition de Mélenchon ont cassé l'image de Mélenchon en partie dans l'électorat.
Et car la République,
la République, c'est moi.
C'est
moi. Ça, alors lui, si vous voulez, il se voyait face au marquis de Rubrézé aux États généraux en juillet 1789 à Versailles pour dire face à l'absolutisme du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire, j'incarne par ma fonction de député quelque chose
nous que
vous devez respecter.
Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Et donc lui, c'est ce qu'il disait et c'est ce qu'il voulait face à... Mais ça n'a pas du tout été compris. Mais autre exemple du poids des mots, des images, les bullshit de Wauquiez lui ont fait un tort inouï en termes d'image, il ne s'en est pas tout à fait relevé. Ou par exemple...
Oui, parce que je mens tout le temps, quoi.
Oui, et oui, chaque fois que je fais une émission, je vous fais du bullshit. Bullshit, c'est la merde de taureau, hein, pour être très concret et très direct. Donc c'est absolument catastrophique. Ou alors l'invention absolument géniale d'Édouard Philippe, il n'en a pas eu tellement en termes de communication depuis sa nomination à Matignon, la droite du Trocadéro. Là, c'est définir sur le segment le plus conservateur, c'est ramener à sens commun la candidature Bellamy. Donc, poids des mots, poids des images, c'est fondamental en politique. Alors, quand les électeurs, pour rester d'un mot, ne se reconnaissent pas dans votre ligne et ne comprennent plus votre ligne, vous perdez sur les deux tableaux. C'est le béaba de la politique.
J'aime bien le « pour rester d'un mot ». David Doucan.
Jérôme Jaffré a dit tout ce que j'avais prévu de dire, donc je suis en difficulté. Avez-vous une autre question ?
Parfait.
Sur un autre sujet. Non, mais sur Jean-Luc Mélenchon, je suis entièrement d'accord avec vous, Jérôme Jaffré. C'est une défaite personnelle.
J'ai une autre question.
Qui connaît Manon Aubry ?
J'ai une dernière question qui a rien à voir. J'ai un article passionnant sur le dilemme de la presse américaine face à Trump, parce que... S'ils ne dénoncent pas les mensonges quand ils disent des mensonges, ils ne font pas leur boulot. Mais s'ils démontent les mensonges, une partie de la population considère qu'ils sont d'un parti pris et honté contre Trump. Et est-ce que de temps en temps, on n'est pas coincé face aux populistes en France par un dilemme de même nature ? Si Marine Le Pen dit n'importe quoi et que je le démonte, c'est mon travail. Si je le démonte, une partie de l'électeur va dire « Ah ben vous êtes de l'élite anti-Front National ».
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, comme vous le savez, j'ai été intervieweur ici à Europe 1 au Grand Rendez-vous. Oui. Donc je peux vous dire que interviewer les populistes, c'est ce qui est le plus difficile et ce qui demande le plus de travail. Il faut travailler, nous, intervieweurs, journalistes, pour être en capacité, lorsque l'interviewé dit quelque chose de manifestement erroné sur le plan des faits, sur le plan de la science aussi, si on parle parfois du climat, il faut intervenir. Il faut le faire. Vous soulevez un problème qui est de dire toute une partie de l'électorat considérera d'office que nous sommes dans un parti pris. Non, non. Nous ne sommes pas dans un parti pris. On fait notre travail. On corrige autant que possible lorsque des propos sont erronés, lorsqu'ils sont manifestement malhonnêtes. Il faut le faire, ça fait partie de notre travail, même de notre devoir, c'est la maîtrise aussi de l'antenne.
Merci David Doucan, c'est sur cette profession de foi comme quoi il ne faut pas abandonner l'exigence d'exactitude qui est une des raisons d'être de ce métier. Et pour terminer, comme on ne peut pas parler de tous les sujets, et que l'Algérie, la contestation continue, l'élection présidentielle risque de ne pas pouvoir avoir lieu faute de candidats sérieux, j'ai décidé de vous faire écouter comme chanson celle utilisée par les manifestants qui s'appelle « Libérer l'Algérie ».
يماك تريم نداوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبري ليبري الغالجيري الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشر سنين تدمر عشرة والو مازل ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب يبيه يبيه غالجيري
Au revoir à tous. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr. C'est très facile. Nous, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau Mediapolis.